communion
à cette révélation.
En Jérémie,
Dieu ne peut se plaindre que comme Jérémie. Dans le second Isaïe, Dieu ne peut parler que comme un sage.
Parce que le second Isaïe est vraiment
un sage. Mais un sage qui entre dans la réalité de la souffrance humaine. En Job, Dieu ne peut parler que comme un révolté. Et un révolté qui écoute la révolte de Dieu. Et à travers Job, je peux découvrir le cri de Dieu à travers toute l'histoire. Tous les cris des hommes de l'histoire, jusqu'à celui de Jésus au calvaire, tous ces cris en quelque sorte rabassés.
Et c'est pourquoi
la Bible, telle qu'elle est là,
avec ses imperfections et ses richesses,
nous renvoie toujours de l'Ancien au Nouveau Testament
et d'un livre à l'autre.
Et plus je connais cette Bible,
plus j'entre dans cette communication avec Dieu,
variée, bigarrée,
diverse,
et qui épouse chacune des époques.
Vous pouvez faire le même type d'expression. Prenez par exemple un sujet, bon, souvent ce sont des sujets bibliques, puisqu'ils ont été repris par des peintres chrétiens. Prenez par exemple une nativité ou une adoration des mages. Eh bien, essayez de reprendre toutes les reproductions d'un même thème et faites non pas seulement de l'histoire de l'art, mais de l'histoire de la révélation dans l'histoire de l'art. Et vous avez toute une théologie. Ce sont des langages humains. Nous aimerions parfois un langage plus direct. C'est ce qu'a essayé, sans y réussir, c'est ce qu'a essayé l'islam, puisque l'islam, hein, d'après la tradition de l'islam, c'est l'ange Gabriel lui-même, mais enfin il fallait quand même encore un ange, hein, donc un intermédiaire. C'est l'ange Gabriel, pas pour rien, l'ange Gabriel, hein, parce que l'ange Gabriel, vous le trouvez déjà dans le livre de Daniel, c'est lui qui sert d'intermédiaire pour le prophète, Daniel. Vous le trouvez aussi hein, lors de la prophétie des 70 semaines d'années, c'est-à-dire la prophétie au sujet du Messie. Quand le Messie vient, ben c'est l'ange Gabriel. Dans l'Évangile, vous avez l'ange Gabriel, qui vient deux fois, comme dans l'Ancien Testament. Et puis, on a repris l'ange Gabriel, puisque c'était un bon intermédiaire, on l'a repris dans l'islam. Et il a dicté la révélation à Mohammed. Mais Mohammed ne savait pas ce qu'il disait. Il fallait des interprètes. Donc, en disant c'est une révélation directe, on dit en même temps une révélation directe à travers des intermédiaires. Et dans la Bible, vous avez cela qui est bien exprimé par le Sinaï. Dieu se révèle à travers des éclairs et du tonnerre. Ça veut dire que sa voix dépasse absolument nos voix humaines. Parle Moïse au nom du Seigneur, mais que nous n'entendions pas la parole de Dieu immédiatement, sinon nous allons mourir. Voilà ce que disent les bénéficiaires de la révélation. Or cette révélation du Sinaï, qui est comme condensée là, à un moment déterminé, elle a pris des centaines d'années. Le Deutéronome, par exemple, qui est le résumé de tout, pris des centaines d'années pour se trouver dans la forme dans laquelle il nous est donné. Dieu se révèle immédiatement à travers ses médiateurs. C'est une question que j'ai reçue comme examen à mon examen de théologie, sur l'ensemble de la théologie. Comment Dieu se révèle-t-il ? Médiatement ou immédiatement ? Il faut dire les deux. Et pour nous, c'est paradoxal. Et c'est vraiment paradoxal. Comment l'infini peut-il être perçu par le fini ? Si l'infini devient fini, il nous rencontre. C'est toute l'économie, et c'est ça le résumé de la révélation, c'est toute l'économie de l'incarnation. C'est ça que nous entendons par incarnation. Que le Dieu, l'infini, le très grand, se mette à notre disposition, à nos pieds. Et cela, vous le trouvez dans toute la Bible, mais révélé de manière humaine, personnelle, par Jésus. Mais il y a des semences partout. Et c'est cette cohérence extraordinaire de la révélation, quand, à force d'être familiarisé à l'Écriture, quand elle nous apparaît, devient beaucoup plus qu'une preuve. Nous cherchons des preuves extérieures, souvent, historiques, critiques. Cette cohérence est beaucoup plus qu'une preuve. Si vous demandez à un pianiste de vous expliquer le morceau qu'il vient de jouer, qu'est-ce qu'il va faire ? Vous le rejouez. Une nouvelle fois. Vous pourrez vous dire, mais il y a des intonations que je n'ai pas entendues dans la première fois, mais oui, c'est sûr.
C'est comme quand on relit un livre aussi. Hein.
Il est nouveau. Mais on ne relit pas tous les livres. Mais c'est aussi ainsi. Ça veut dire que tous les livres ne nous atteignent pas à la même profondeur. Oui, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est que Dieu puisse se servir comme cela. Se servir des hommes. Les servir des hommes. Il ne se sert pas pour lui. Il les sert pour eux. Vraiment au service. Et cela, pour moi, c'est le jeu de la Trinité à l'intérieur de notre être. Que nous sommes constitués par les relations, par des relations d'amour, c'est-à-dire de compréhension mutuelle. Et tous ces chemins de relations passent tous, comme dans le livre de Jérémie ou chez les prophètes, tous ces chemins de relations passent tous par des éclipses, par des moments durs, par des moments de reniement, par des moments de solitude. Et ils sont essentiels au processus. Parce que nous sommes des hommes. Et que nous ne sommes pas tout d'un coup. Et le temps qu'il faut pour faire un homme, oh Dieu que c'est long, hein. Pour faire un homme. Et cette patience de Dieu qui nous construit
en nous laissant nous construire. Toujours comme ça.
On ne construit pas de l'extérieur,
c'est ce que nous avons vu
dans l'argile sous la main du potier. Il faut que l'argile elle-même se fasse malléable au doigt du potier. Pour que le doigt du potier puisse se rendre presque perméable, sensible à l'argile. Et voilà que, après avoir parcouru, et vous aurez vu qu'il y a parmi ces nombreuses répétitions quelques pépites, quelques diamants qui surgissent, des phrases qui nous font vivre. Voilà que, après tout cela, on nous parle de Babylone au chapitre 25. On en a tellement parlé, mais à mot couvert, souvent. De quoi s'agit-il? Quel est le rôle de Babylone dans tout ça? Quel est le rapport entre Dieu et Babylone? Eh bien, on va vous en dire quelques mots, un entrefilet, au début du chapitre 25e, mais après avoir parlé de Babylone, on va vous parler des oracles contre les nations, et puis, on coupe. Et les oracles contre les nations, on va les rejeter à la fin du livre. Pourquoi Babylone et les nations? Mais précisément parce que Israël se trouve un petit pays qui a un rôle à jouer parmi les nations. Toutes les nations se lancent sur Israël pour le posséder, et Israël a un message à leur transmettre. Mais Israël est coincé par les nations. Israël est tout à fait vulnérable, aussi autant que le prophète. Alors, il faut quand même vous donner quelques mots pour comprendre un peu le fil. C'est pourquoi on vous parle de Babylone comme le fléau du Seigneur. On vous annonce qu'il va y avoir des oracles contre les nations, Babylone symbolisant toutes les nations du monde, mondialisation dirions-nous aujourd'hui. Quel est le rapport entre la réalité, la dignité de la personne humaine et la mondialisation économique? C'est le problème. C'est un vieux problème, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, mondialisation? Pour le profit ou pour l'homme? Vous direz que le profit, c'est aussi une manière d'être pour l'homme. Une manière, oui. Pas la seule. Alors, Israël et les nations, c'est la même réalité. Dans la Bible, Israël, c'est la dignité humaine. C'est l'homme avec toute sa valeur. Et toute sa valeur vient du fait qu'il est créé par Dieu, qu'il est porte-Dieu, qu'il est théophore, ou christophore, dirions-nous, hein, dans le Nouveau Testament, porte-Dieu. C'est sa mission. C'est sa richesse, c'est son malheur, parce qu'on va lui tomber dessus. De quel droit tu te dis, hein, fils de Dieu? Et les nations, c'est la manière de vivre des hommes, avec leur intérêt, leur profit, la domination, l'argent, le pouvoir, le sexe, tout ça. Les idoles. Faut-il sacrifier la personne pour l'intérêt général, l'intérêt commun, c'est ce que nous disons. Pas nécessairement le bien commun c'est encore autre chose. Précisément, le bien commun, c'est essayer de mettre les deux choses ensemble. La dignité, la valeur de la personne dans l'ensemble des personnes.
pas dans l'ensemble hein, d'une institution qui marche, qui fonctionne bien, qui est rentable, mais essayer, je dis bien essayer de faire coïncider le bien de la personne dans un ensemble où le bien de chaque personne est mis en évidence, est servi. Difficile, hein ? Difficile. Parce que même les institutions caritatives hein, ont du mal de faire cela. Alors voilà, c'est le drame hein, profond qui hante le cœur de Jérémie. Alors, on m'a demandé, parce que je ne l'ai pas dit, que signifie le mot Jérémie ? Yarim Yahou, Yarim Rum, être élevé, faire se dresser, faire s'élever, Yarim. Il lèvera, Yahou, Dieu. Dieu élèvera. Hein, Dieu fera se dresser. Yirmiyahou. Dieu se dresse à travers Jérémie. Parole concernant tout le peuple, chapitre 25, tout le peuple de Juda, qui fut adressé à Jérémie la quatrième année de Joachim, fils de Josias et roi de Juda, c'est-à-dire, hein, un scribe qui a ajouté, c'est-à-dire la première année de Nabucodonosor, roi de Babylone. Tout ça se situe à la même époque. Jérémie, le prophète, la prononça devant tout le peuple de Juda et tous les habitants de Jérusalem. Donc, à un certain moment, on a demandé à Jérémie, explique-nous un petit peu le rôle de Babylone dans l'histoire du monde, dans l'histoire d'Israël. Qu'est-ce qu'il vient faire ce gars-là, Nabucodonosor ? Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon et roi de Juda, jusqu'aujourd'hui, voilà 23 ans, c'est un repère intéressant, 23 ans de prophétie, tout ce que nous avons vu jusqu'ici, voilà 23 ans que la parole du Seigneur m'a été adressée et que sans me lasser, je vous ai parlé. Peut-être aussi en vous lassant. Hein. Je vous ai parlé, mais vous n'avez pas écouté. De plus, le Seigneur, sans se lasser, voyez, le prophète ne se lasse pas, Dieu ne se lasse pas. Voyez l'identification. Hein. De plus, le Seigneur, sans se lasser, vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Mais vous n'avez pas écouté, ni tendu l'oreille pour entendre. C'est une grâce de leur dire ça. Hein? Les reproches sont des grâces. Ça vous dit, vous n'y êtes pas encore. Continuez. Cette parole était... Ah, voilà, voilà. Revenez donc, chouf. Revenez donc. Chacun de votre mauvaise voie et de la perversité de vos actions. Toutes nos actions sont doubles. Et elles ont quelque chose d'hypocrite. Et nous avons à le reconnaître, c'est la première chose. Alors vous pourrez rester sur le sol que le Seigneur vous a donné, à vous et à vos pères, depuis toujours jusqu'à toujours. Vous ferez l'expérience du don. Mais n'allez pas suivre d'autres dieux pour les servir et vous prosterner devant eux. Ne recherchez pas d'autres intérêts. Ne méritez pas par les œuvres de vos mains. Alors, je ne vous ferai point de mal. Est-ce que ce ne serait pas suffisant de dire, mais tenez-vous-en aux préceptes de l'Alliance. Pourquoi Dieu dit-il qu'il est irrité, qu'il est agacé ? Parce que c'est une personne. Ça me touche. Que vous ne découvriez pas ce qui vous fait vraiment du bien, ce qui vous ferait devenir vraiment ce que vous êtes.
C'est ça qui fait mal à Dieu. C'est que nous ne soyons pas vraiment qui nous sommes. Mais vous ne m'avez pas écouté, oracle du Seigneur, en sorte que vous m'avez irrité par les œuvres de vos mains, pour votre malheur. Pas pour moi, mais pour votre malheur. C'est à vous que vous faites mal. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur des armées. Puisque vous n'avez pas écouté mes paroles, ben voici que j'envoie chercher toutes les familles du Nord, oracle du Seigneur, autour de Nabucodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Oh, 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 oh. Cyrus était le serviteur, hein, chez Isaïe. Eh bien, ici, voilà, Nabucodonosor, mon serviteur. Celui qui vous tape dessus, c'est mon serviteur. Oh. Et je les amènerai contre ce pays et ses habitants et contre toutes ces nations d'alentour. Autrement dit, je vais me glisser dans votre histoire et l'assumer. Je les frapperai d'anathème et en ferai pour toujours une épouvante, une risée, un opprobre. On s'est moqué de vous, on se moquera de Babylone aussi. Ça, c'est ce qui se fait entre hommes. C'est le jeu des humains. Le jeu du pouvoir. Un prend le pouvoir de l'autre, et un autre prendra le pouvoir de cet autre. Je ferai disparaître chez eux, et alors c'est le petit refrain, les cris de jubilation et de joie, les appels du fiancé et de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. C'est-à-dire votre vie quotidienne sera bouleversée. Tout ce pays sera réduit en désert et dévasté. Ils resteront en servitude parmi les nations. Ils resteront, c'est-à-dire hein, les Israélites. 70 ans. Et effectivement, depuis, il faut commencer en 597 pour avoir 70 ans. Hein. De 597 jusqu'à 538, c'est-à-dire l'édit de Cyrus et le retour, vous avez 70 ans. C'est 50 ou 70, comme vous voulez. Mais quand seront accomplis les 70 ans, hein, je visiterai le roi de Babylone, il aura fait son temps, autrement dit. Et cette nation, parce que lui, le roi de Babylone, sera, Nabucodonosor, aura déjà disparu. Oracle du Seigneur, à cause de leurs crimes, ainsi que le pays des Chaldéens pourra faire une solitude éternelle. C'est la loi des hommes, c'est la loi de la mondialisation. Une banque va en faire sauter une autre, une entreprise va en faire sauter une autre. Rationalisation. C'est le jeu des hommes. J'amènerai donc contre ce pays toutes les paroles que j'ai prononcées contre lui, tout ce qui est écrit dans ce livre. Mais si tout ça n'est pas mis au compte de Dieu, alors le monde est incohérent. S'il n'y a pas quelqu'un qui supervise tout et qui va essayer d'arranger les choses sans forcer personne, mais en utilisant en quelque sorte, en se servant du jeu des hommes, c'est Dieu. Voilà ce qu'explique Jérémie. Dieu s'insinue, s'insère dans le jeu meurtrier des hommes. Si vous avez déjà lu une histoire universelle, pas seulement une petite histoire de notre petit pays, mais une histoire universelle, vous serez frappé précisément de ces hordes, hein, de barbares, comme on les appelle, qui passent à travers tout. Et puis c'est un autre, et encore un autre. Genghis Khan et Tamerlan, etc. C'est le jeu des hommes. Alors, le problème de ces gens, hein, qui ont été des victimes constantes du nord ou du sud, mais qu'est-ce que Dieu fait dans cette histoire? Quand nous voyons chacun notre vie, c'est pareil. Des aventures, des incohérences, qu'est-ce que Dieu fait dans notre histoire? Quel est le fil rouge? Vous savez d'où vient le fil rouge, hein, ça vient de Rahab, hein, de l'entrée des Israélites en Terre Sainte par Jéricho, et comme Rahab, hein, la tenancière de Cabarella, hein, à l'entrée de Jéricho.
C'est plus que ça.
Plus que ça, c'est ça. C'est ça. Du bordel, hein, sur la route, là. Hein. Eh bien, elle fait un petit couplet au Seigneur, et pour qu'on l'épargne avec sa famille, on met un fil rouge à la fenêtre. Le fil rouge, c'est le chemin du salut, en quelque sorte. Et les pères de l'Église, notamment saint Augustin ou Grégoire de Nice, ont de très belles pages sur ce fil rouge, qui est le sang de Jésus, et qui devient le sang de Jésus, à travers, hein, le sang de l'agneau pascal sur les tentes des Israélites.
Symbole de l'Église aussi.
Symbole de l'Église, tout à fait. Mais justement, l'intéressant des pères de l'Église, c'est qu'ils ont perçu cette cohérence de la révélation, et alors qu'ils l'explicitent de façon symbolique. Et ils reprennent les symboles, hein, et ils se les renvoient de l'un à l'autre. Plus vous entrez dedans, plus cette cohérence vous apparaît, plus cette révélation, hein, devient quelque chose de fort. Si on ne la connaît pas, si on reste à l'extérieur, on ne perçoit pas tout ça. Souvent, nous critiquons quelqu'un parce que nous ne le connaissons pas. Nous ne connaissons que certains aspects qui nous irritent et nous ne voyons plus que cela. Ce qu'a prophétisé Jérémie contre toutes les nations, tiens, j'ai parlé de Babylone, contre toutes les nations, ben oui, c'était un exemple pour tous, car elles aussi seront asservies à des nations puissantes et à des grands rois, et je leur rendrai selon leurs actes et selon l'œuvre de leurs mains. Le Seigneur, Dieu d'Israël, me parla de la sorte. Prends de ma main cette coupe de vin, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je vais t'envoyer. La coupe de vin, la coupe symbolise ce que nous avons à boire, c'est-à-dire notre destinée. Donc, ce que tu vis, les autres le vivent aussi, différemment. Ben voilà. Mais toutes les nations vivront une expérience difficile, une destinée humaine. Pour qu'elles boivent, chancellent et deviennent folles devant l'épée que je vais envoyer au milieu d'elles. Le vin leur fait tourner la tête, quoi. C'est une image. Les gens, finalement, deviennent fous, hein. Mais cette folie, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui la contrôle un petit peu. Eh bien, c'est moi. Moi, le Seigneur. Je pris la coupe de la main du Seigneur et la fit boire à toutes les nations vers lesquelles le Seigneur m'avait envoyé. Et cette coupe de vin, ce sont les oracles. Jérusalem et les villes de Juda, ses rois et ses grands, pour en faire une désolation, une épouvante, une risée, une malédiction, comme c'est le cas aujourd'hui. Ça, ce sont toujours, hein, les additions, sont souvent mises entre parenthèses dans mon édition ici, hein, les additions des scribes. Et alors, on continue. Pharaon, roi d'Égypte, avec ses serviteurs et ses grands et tout son peuple, ainsi que tout le ramassis des étrangers, tous les rois du pays de Outz. Outz, c'est le pays de Job, hein. Bon, Outz. À l'extérieur, Houtz. Tous les rois du pays des Philistins, Ashkelon, Gaza, Ekron, et tout ce qui reste encore d'Ashdod, Édom, Moab, les fils d'Amon, tous les rois de Tyr, tous les rois de Sidon, les rois des îles au-delà de la mer, Dedan, Téma, Bouz, tous les temples rasés, c'est-à-dire, hein, l'Arabie, tous les rois de l'Arabie qui habitent le désert, tous les rois de Zimri, tous les rois des Lames, tous les rois de Médie, tous les rois du Nord, proches ou lointains, l'un après l'autre, et tous les royaumes qui sont sur la face de la terre, quant au roi de Shishak, c'est encore l'Égypte, il boira après eux. Il a quand même une petite dent contre l'Égypte. Ça, c'est Jérémie. Il ne peut pas sortir l'Égypte. Mais ça, c'est toute la géographie. Il a pris la table des matières, hein, de son livre de géographie, et dit, ben, tout ça. Exactement comme Saint-Luc le fera, hein, à la Pentecôte, il va prendre, hein, la table des matières des peuples de son époque. C'est une manière de dire l'universalité, mais il pourrait dire tous,
il dit tous, c'est-à-dire chacun, chaque un. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur des armées, moi précisément que c'est le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Buvez, saoulez-vous, vomissez, tombez sans pouvoir vous relever devant l'épée que je vais envoyer au milieu de vous. Et si jamais ils refusent d'accepter de ta main la coupe à boire, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Sabaoth, il faudra bien que vous buviez. Il faut tirer votre vie, hein. Car voici, c'est par la ville qui porte mon nom que j'inaugure le malheur. C'est par la ville qui porte mon nom que j'inaugure le malheur. Et vous resteriez dans l'impunité? Non. Je commence par le fils aîné, hein. C'est celui qui a le premier, le droit à la correction, hein. Puis les autres suivront. Mais ils verront que ça peut servir, peut-être. Hein. Non, car j'appelle moi-même l'épée contre tous les habitants de la terre. Contre tous les habitants de la terre, oracle du Seigneur. Manière de dire, rien ne m'échappe. Parce que si quelque chose échappait à Dieu, il ne serait pas Dieu. Alors, il faut bien qu'il fasse avec l'homme. Et toi, tu leur annonceras toutes ces paroles et leur diras, le Seigneur rugit d'en haut. Voilà qu'il a repris Amos ici. De sa sainte demeure, il élève la voix. Il rugit avec vigueur contre son pacage. Il pousse le cri des fouleurs de cuves à tous les habitants de la terre. Il reprend Isaïe. Amos, Isaïe. À tous les habitants de la terre en parvient le bruit, jusqu'au bout du monde. Car le Seigneur ouvre le procès des nations. Le jugement général, comme nous disons, est déjà commencé. Car le Seigneur ouvre le procès des nations, il institue le jugement de toute chair. Les impies, il les livre à l'épée, oracle du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur des armées. Voici, le malheur s'étend de nation en nation. Une immense bourrasque éclate aux extrémités de la terre. C'est le jeu des hommes. La spirale de la violence, c'est le propre jugement des hommes. Il y aura des tués, et des tués du Seigneur, hein, en ce jour-là, d'un bout de la terre à l'autre. On ne les pleurera pas, on ne les ramassera pas, on ne les enterrera pas. Ils resteront sur le sol en guise de fumier. Le fumier, ça fait grandir, hein. C'est une manière de dire, ça va faire un exemple pour tous. Hurlez, pasteurs. Les pasteurs, hein, rappelons-nous, ce sont les gouvernants, les rois et toute leur cour. Hurlez, pasteurs, criez, roulez-vous à terre, chef du troupeau, car vos jours sont à point pour le massacre. Vous tomberez comme des béliers de choix. Plus de refuge pour les pasteurs, ni de salut pour les chefs de troupeau. Écoutez la clameur des pasteurs, le hurlement des chefs du troupeau, car le Seigneur a dévasté leur pacage, les pâturages plantureux sont anéantis. Le lion a quitté son repère, leur pays est devenu un désert. Hein, le lion s'est mis en chasse. Hein. Et le lion, c'est tous les tyrans possibles et imaginables. Le lion a quitté son repère, leur pays est devenu un désert, sous les coups de l'épée dévastatrice, devant l'ardente colère du Seigneur. Autrement dit, la colère est toujours le cri de l'amour blessé. Ça fait mal à Dieu que les hommes se fassent mal. Il est atteint. Il est atteint parce qu'il est présent dans l'homme. Voilà, ça c'est l'exorde. Et nous allons voir le chapitre après, à la fin. On va donc enserrer cette histoire, cette biographie de Jérémie. On va l'enserrer entre un titre, hein, un titre et une introduction, et les oracles de la fin. Et c'est pas pour rien que les rédacteurs,
définitif, on fait comme cela le livre. Hein, jusqu'au, comme nous avons vu, jusqu'au chapitre 23, là, hein, 24 même, nous avons eu les différents oracles, à différentes époques. 23 ans d'oracle de Jérémie. Donc, on a écouté comment il parlait. Et maintenant, on va réfléchir sur la situation, ce que Israël a vécu, ce que le prophète a vécu, c'est d'une manière ou d'une autre ce que chaque homme et ce que chaque nation doit vivre. Chacun doit vivre sa destinée. Maintenant, il faut découvrir, ça c'est le message qu'Israël a donné, et spécifiquement le prophète, il faut voir comment Dieu s'en tire avec cela. Comment il traverse cela. Et donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Mais on va le voir à travers une vie singulière. La vie du prophète. Nous avons découvert maintenant comment le prophète s'identifiait à Dieu d'une part et au peuple d'autre part. Donc, si nous regardons une destinée particulière, c'est-à-dire la nôtre, nous n'avons que celle-là devant nous à gérer. Si nous regardons une destinée particulière, au fond, nous aurons des antennes pour découvrir ce que chacun vit. C'est un peu cela l'idée. Et notre vision personnelle singulière va pouvoir devenir en quelque sorte universelle. Il va pouvoir écouter les autres expériences et découvrir la fermeté de son espérance. Si je peux supporter des coups de tous les côtés, même et surtout de mes proches, je pourrais aussi compatir à toutes les souffrances de tous les autres. Et c'est ça, au fond, le schéma du livre. Mais nous ne pouvons découvrir cela qu'en voyant d'abord comment il coïncidait avec le peuple et avec Dieu. C'est pourquoi vous avez eu jusqu'à satiété, hein, oracle du Seigneur, hein, le Seigneur m'a parlé, m'a dit, etc. Vous voyez, attention, Dieu a quelque chose à voir avec cette histoire du monde. Dieu a quelque chose à voir avec ma vie, il a quelque chose à voir avec la vie de mon voisin, qu'il croit ou qu'il ne croit pas. Comme le dirait Ézéchiel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une engeance de rebelles. C'est ce que vous avez tout le temps, hein, chez Ézéchiel. Va dire à ce peuple qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles. C'est-à-dire, j'avalise le fait qu'ils n'écouteront pas. Et je l'accepte. Ça fait mal, mais je l'accepte. Voilà. Je suppose évidemment que l'on sait, mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est pour ça que je ne désire pas trop me répéter, qu'il y a dans l'écriture un sens littéral. Je ne fais pas dire n'importe quoi à la Bible, parce qu'on pense qu'on peut tirer le texte dans tous les sens. Non. Il y a une ligne, et cette ligne, c'est la littéralité du texte. Et la littéralité du texte pour les Juifs est encore bien plus grande que pour nous. Mais, comme déjà chez les Juifs, existait une théorie, bon, non, eux ils ne font pas de théorie, mais une pratique de l'interprétation du sens du texte en quatre points. C'est ce qu'ils appelaient le pardès. Le pardès, c'est le paradis. Et quand un juif dit « j'entre » ou « nous entrons dans le paradis », ça veut dire que nous interprétons l'écriture selon ses quatre sens. Et les quatre sens, vient mettre des initiales. Bon. Percevra mieux. Donc Pardès s'écrit comme ça. Ah, pardon. J'ai mis quatre lettres en majuscule. Donc c'est du mot paradis, paradaïs, ça c'est un mot iranien qui veut dire le jardin, le verger. Et donc PRDS, ce sont les initiales des quatre sens. P signifie le pshat. Le pshat, pshat, ça veut dire simple. Quelque chose de simple, pshat. Pardon ? Alors, le pshat, donc c'est le premier sens, ce qu'on lit à première vue, sans autres explications, d'une façon naïve, sans addition d'aucun autre sens. Le R signifie le remez. Ça, c'est ce qu'on appelle le sens secret. Enfin, secret, c'est pas tout à fait. Le sens qui est derrière, qu'il faut essayer de découvrir. Le remez, c'est précisément le sens qu'on appelle allégorique. Il dit quelque chose sur le plan du symbole. Donc, vous parlez de l'eau, ben, l'eau, c'est de l'eau. Mais l'eau, c'est aussi quelque chose qui coule. De l'eau vive, c'est le signe du vivant. Donc l'eau va aussi signifier la vie, comme le sang, voyez. Donc c'est le sens symbolique qui est caché derrière le premier sens. Babylone, ben, c'est la ville de Babylone, mais c'est aussi n'importe quel ennemi, c'est aussi n'importe quel dominateur, c'est aussi n'importe quel tyran. Et l'Égypte, ben, l'Égypte c'est l'esclavagiste, voyez. Quand Jésus va en Égypte, il ne va pas nécessairement au Caire ou à Luxor. Mais il vit dans l'Égypte que nous sommes, c'est-à-dire il entre dans l'esclavage humain. L'un ne fait pas de tort à l'autre, ça peut être l'un et l'autre. Nous nous opposons souvent le symbole à la réalité. Eux, non. La réalité est aussi symbolique. Alors, donc c'est le remez, c'est, si vous voulez, le sens du symbole. Donc ça c'est le simple, le sens simple, ou bien littéral, ce que dit la lettre. Alors ici c'est le symbole, ou bien l'allégorie. Allégorie c'est dire, alors goreo, c'est dire dans un autre vocabulaire, dans un autre langage. Le D, c'est le derash. Le drache, et le drache, ça veut dire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire le sens moral. Le texte nous invite à une action. Le texte n'est pas fait seulement comme information, il nous invite à entrer dedans. On nous parle d'Abraham, oui, mais Abraham, c'est la manière dont nous avons, nous, à nous ajuster à ce personnage d'Abraham. Donc c'est le sens moral. Où les pères de l'Église vont appeler ça le sens tropologique. 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 Ou éthique, si vous voulez. Ce terme est déjà plus employé aujourd'hui. Et alors le S, c'est la première lettre de Sod. Sod, c'est le secret. C'est le sens mystique du texte. Le sens caché, le sens que nous devons découvrir à l'intérieur de notre vie profonde. Et alors, cette manière de faire des rabbins a été reprise par les pères de l'Église. Et les pères de l'Église travaillent constamment suivant ces quatre sens. Vous prenez Saint-Grégoire, vous prenez... Grégoire de Nice, par exemple, Saint Grégoire le Grand, également Saint Ambroise, Saint Jérôme, ils travaillent tous selon les quatre sens. Ils disent, voilà, le premier sens, celui que vous lisez, hein, l'Évangile nous parle d'un lépreux, bon, lépreux, oui, d'accord, un lépreux. C'est, qu'est-ce que c'est que la lèpre? Hein? À notre époque, c'est quelque chose de bien déterminé, la lèpre. C'est une maladie bien déterminée. Mais la lèpre, ça défigure la personne. Et donc, dans la Bible, la lèpre, c'est la défiguration de l'image de Dieu en nous. Et toute espèce de dermatose, en quelque sorte, qui apparaît à l'extérieur, sur la peau, est signe, ça ne veut pas dire que l'homme est malade intérieurement, mais est signe qu'il y a aussi de la défiguration, de la caricaturisation, dirions-nous, de la personne de Dieu dans l'homme. Ça c'est, vous voyez, le sens allégorique ou symbolique. Donc la lèpre, c'est d'abord une maladie concrète de la peau, mais ça porte aussi un sens symbolique. Être paralysé, ça a un sens matériel, je ne peux plus bouger, mais ça a un sens spirituel aussi. Nuque dure, hein? C'est un rhumatisme spirituel. Vous voyez? Mais la Bible joue toujours sur ces sens. Alors, ce qu'on appelle fondamentalisme, le sens fondamental, c'est ne prendre que la lettre. Et ne regarder que ce petit sens-là, un tout petit. Donc le sens matériel. Et ça, c'est la seule méthode qui ait été rejeté par l'Église. Parce que ne prendre que ce sens-là, c'est vraiment atrophier le texte. Le texte est beaucoup plus large que ça. Si c'était simplement pour nous informer, vous n'auriez pas de Bible. La Bible n'est pas, ne nous informe pas. La Bible nous forme de l'intérieur, c'est autre chose. Hein, informer, c'est-à-dire nous forme de l'intérieur, mais ne nous donne pas des nouvelles. Et donc, c'est pour ça que la Bible a des résonances. Mais je ne peux pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Exactement le contraire de ce qu'il dit. Parfois, ça signifie le contraire de ce qu'il paraît dire. Je vais prendre un exemple très...